RMC, Intégral Foot, Coupe du Monde Féminine.
Arnaud Valadon.
Et c'est l'événement, le match des Bleus face au Panama. Troisième match de poule que vous vivez en direct et en intégralité. Vous retrouverez les meilleurs moments d'Estelle Midi demain. On est ensemble jusqu'à 15h avec Élise Bussaglia, ancienne internationale, Fleur Jaffrelo, Anthony Reich au commentaire. Et on est dans le temps additionnel de France-Panama. Et juste cette information, parce que c'est la même poule que les Bleus. 0-0 entre la Jamaïque et le Brésil, c'est terminé. Et les Jamaïcaines qui vont donc passer les huitièmes de finale et éliminer donc le Brésil, éliminé de cette Coupe du Monde. C'est la petite surprise, donc les Jamaïcaines qui avaient tenu tête à nos Françaises lors du premier match et à toute la détresse des Brésiliennes. On en parle, on est ensemble jusqu'à 15h. Le 32-16 est ouvert puisqu'on débriefera eh bien, cette phase de poule et les matchs des Bleus. Retour au jeu, Anthony Reich avec Hervé Renard qui regarde sa montre.
Il n'est pas content.
Parce qu'il y a trop de temps additionnel.
Ah non, non. Il s'est excusé d'ailleurs pour sa colère de.
C'est vrai.
Après le, lors de la fin de match du Brésil, 5-3 en faveur de cette équipe de France face au Panama. 13 minutes de temps additionnel, 4 minutes 38 d'écoulées. Il reste encore du temps dans cette rencontre et on imagine que cette fin de match ne plaît pas du tout à Hervé Renard qui justement rappelle très souvent la solidité défensive, le sérieux jusqu'au bout et les 90 minutes. Élise, ça fait tâche quand même là, hein, c'est 2 buts encaissés.
Ouais, et puis c'est surtout qu'on est un petit peu en danger sur chaque coup de pied arrêté finalement, et même des coups de pied arrêtés tirés de très loin, comme on voit sur le troisième but qui amène à une réduction du score. Donc on n'est pas en danger au niveau de la qualification et de la victoire finale, mais la deuxième mi-temps n'est vraiment pas jolie. Et je pense qu'en regardant sa montre, Hervé Renard, il a qu'une hâte, c'est que le match se termine et de vite passer à la suite de la compétition qui va être. Une autre compétition avec les matchs à élimination directe.
Ouais, et là, encore une fois, une poussée, une percée côté droit de Clara Matteo, mais il n'y a pas vraiment de mouvement autour de l'attaquante du Paris FC. Ça redonne le ballon aux Panaméennes, mais peut-être la bonne pression des joueuses de l'équipe de France côté droit au niveau de la surface de réparation panaméenne, mais le ballon en profondeur à destination de Lorina Fazer est trop profond et ça va permettre aux joueuses du Panama de se dégager via leur gardienne Bailey encore. Allez, 7 minutes à jouer dans le temps additionnel de cette deuxième période, 5-3 en faveur de l'équipe de France.
Ouais, l'équipe de France qui, si elle prend 3 buts, prendrait la porte. Hein. Bon, je fais juste le scénario, je suis obligé quand même.
Hein. Là, quand même,
obligé,
ça serait...
Oui. 3 buts en 7 minutes.
Là, je rends mon chapeau. Là. Tiens. Allez, voilà.
Oui, non mais bon, écoute, ça fait partie, même s'il y a 0,00000001% de chance.
Tu as raison. Bonne bataille au milieu de terrain, au niveau du rond central, les Bleus qui récupèrent, Léa Le Garec avec pas mal d'activité, mais elle essaye de lancer Clara Matteo, mais Matteo qui prend pas le couloir et... Elles perdent le ballon, les Bleus encore. Il y a aussi moins de fluidité dans le secteur offensif. Il faut que ça se termine, cette rencontre, je pense. Ça fera du bien à tout le monde encore. Allez, 6 minutes dans le temps additionnel de cette deuxième période. 5-3 pour l'équipe de France et le ballon qui circule tranquillement au niveau de la...
Tiens, rappelle-nous, parce que si vous nous rejoignez à 13h58 sur RMC, c'est France-Panama. Juste les joueuses qui sont sur le terrain, c'est pas nos cadres qui ont été mis au repos. Je pense notamment à Wendy Renard et Eugénie Le Sommer.
Ah bah déjà, au coup d'envoi, Hervé Renard avait procédé à 5 changements dans le 11 titulaire par rapport au 11 qui avait démarré face au Brésil. Il avait laissé au repos notamment Eugénie Le Sommer, Wendy Renard, Sandy Toletti ou encore Kenza Dali et Sakina Karchaoui. Et il y a eu beaucoup de changements entre temps. On a vu les rentrées de la jeune Lorina Fazer par exemple du Paris Saint-Germain, Viviane Assini sur le côté gauche, Amel Majri qui est aussi entrée, Kadidia Toudani qui a cédé sa place. Donc c'est vrai que là il n'y a pas énormément de tolières sur le terrain, des joueuses d'expérience, donc avec une défense un petit peu expérimentale, on va dire aujourd'hui. Estelle Cascarino à gauche, l'axe est composé d'Elisa De Almeida, Maëlle Lacrar, à droite c'est Eve Périsset, la joueuse de Chelsea. Au milieu de terrain, là on retrouve en ce moment Léa Le Garec, Clara Matteo notamment, Amel Majri ou encore Viviane Assini. Puis l'attaque, elle est menée par les deux plus jeunes du groupe, hein, les deux Benjamines. La Benjamine, c'est Vicky Béchaud, la Lyonnaise. Jiménez et Lorina Fazer, toutes les deux moins de 20 ans quand même, hein. Attention à ce ballon quand même là-haut, là, Pauline Perromanien qui se fait un petit peu peur sur son pied droit. Elle est dans sa surface, elle sort de sa surface côté droit, bonne pression des deux attaquantes panaméennes qui arrivent à récupérer le ballon. Faut pas faire n'importe quoi quand même. Elisa de Almeida qui dégage la maison bleue. Attention, attention, encore 4 minutes de temps additionnel dans cette rencontre. Mais les bleus, elles sont ok qualifiées, 5 buts à 3, mais faudrait encore moins ternir cette copie là, cette deuxième période qu'elles ont perdue au point, on va dire, face au Panama. Allez, on repart côté gauche, faut poser ce ballon. Viviane Assini qui a du champ, elle a le temps dans ce temps additionnel. Allez, encore 4 minutes à jouer. Elle essaye de combiner avec Lorina Fazer, toujours côté gauche. On va revenir derrière Estelle Cascarino. Allez, Panamène, elle n'y croit plus là, ça y est, je pense là, elles ont abdiqué, elles sont toutes dans leurs 35 mètres. L'ouverture, la transversale, c'est bien joué côté droit en direction de Dev Périsset qui centre. C'est tendu au premier poteau et magnifique la reprise et le but. Et le but de Vicky Béchamp, la jeune Lyonnaise qui est récompensée de ce premier match titulaire en Coupe du Monde par ce but. 6 buts à 3 pour l'équipe de France face au Panama. Encore 3 minutes 30 à jouer dans le temps additionnel.
Allez, ouais, c'est bien pour Béchamp, ça la récompense sur les minutes qu'elle a grappillées sur le début de la Coupe du Monde plus ce match titulaire. Et puis là, elle fait un super appel au premier poteau, elle passe bien devant son adversaire direct et elle dévie parfaitement ce ballon pour marquer un but. C'est vraiment bien pour elle.
Parce qu'elle a fait beaucoup d'efforts, hein, Anthony.
Franchement, au niveau sur le fond de l'attaque, elle s'est dépensée, elle a été mobile, elle a percuté à droite, à gauche, elle a aussi été dans l'axe. Non, franchement, là, c'est un bon jaillissement au premier poteau, presque un peu renard des surfaces là quand même. Hein. Elle tente sa petite reprise, un petit ciseau, on va dire un peu là. C'est bien joué, Vicky Béchaud qui est en pleine confiance, qui se sent bien dans cette équipe. Elle découvre la maison bleue et à 19 ans, c'est vraiment prometteur. On va pas s'extasier plus outre mesure, hein. Il faut la laisser un peu grandir, comme disait Hervé Renard. Mais non, c'est vraiment positif. 6 buts à 3 pour les Bleus. On est sur un score assez incroyable. Encore 2 minutes 30 à jouer dans ce temps additionnel. Il y a 13 minutes. Hein. On est à 10 minutes 30 de jouer. C'est assez fou. Et le ballon est dans le camp tricolore.
Et 6 buts marqués en un match de Coupe du Monde. On s'interrogeait sur les 3 buts. 6 buts, on va les regarder. Hein. Je vais consulter
pour l'équipe de France en Coupe du Monde.
6 buts
ouais, je crois qu'il n'y en a pas eu.
Ouais, il y a eu 5 buts face à l'Italie, mais c'était l'Euro. Il y a eu 2 fois 5 aussi en 2000. Il y a eu 5 buts face au Mexique lors du dernier match de poule en Coupe du Monde 2015 au Canada. Mais 6 là comme ça de mémoire, je te dis,
on va regarder, mais je regarde pour toi.
Merci, c'est gentil Arnaud.
Et on finit, alors on aura peut-être un peu plus de temps additionnel hein, avec ces deux buts. Allez, encore 13 minutes de temps additionnel, on le rappelle hein.
Encore 1 minute 45 à jouer dans ce temps additionnel. 6 buts à 3 pour les Bleus et le ballon est dans le camp bleu. Les Panaméennes qui n'abdiquent pas et franchement c'est tout à leur honneur. Elles essayent là d'aller un long ballon vers encore une fois, elle est inusable cette capitaine Cox, et elle a un vrai volume de jeu, mais ça va tout droit dans, c'était trop long là cette fois-ci pour la capitaine panaméenne, et ça va tout droit dans les gants de Pauline Perromanien qui relance et qui prend son temps quand même, la portière de la Juventus. On est côté droit au niveau de la ligne médiane, bonne déviation de Lorina Fazer pour Béchaud. Béchaud qui gêne la défense panaméenne, c'est récupéré par Fazer, peut-être à la course la parisienne, elle est battue au duel par Pinzon. C'est bien défendu là pour le coup, bien joué de la part de Pinzon devant Fazer. Le ballon qui revient dans le rond central, c'est déjà perdu par les Panaméennes. Et hop, on va calmer. C'est bien joué de la part d'Estelle Cascarino qui envoie loin derrière à Pauline Perromanien dans sa surface. 6 buts à 3 pour l'équipe de France face au Panama. Encore, allez, 45 secondes dans ce temps additionnel. Et il y a 13 minutes au total. On est à 12 minutes 15 de jouer. Et les Bleus qui tentent de faire tourner le ballon. Élise, tranquillement, là, on va mettre ça au chaud. Hein.
Ouais, là, les Bleus qui attendent la fin du match. Hein, voilà, le score est fait, la qualification est assurée, la première place aussi, l'essentiel est là. Après, les joueuses ont essayé, mais on voit toute la différence entre une équipe titulaire, on va dire indiscutable, et puis des remaniements, des choix qui ont été faits par Hervé Renard pour donner du temps de jeu et aussi reposer les cadres. Et c'est vrai que forcément, ça manque un peu de lien, de connexion entre les joueuses. Et ça se ressent hein, sur un match comme ça, même si c'est le Panama en face. quand des joueuses ont peu l'habitude de jouer ensemble, bah ça se ressent.
Ça se voit. Et Vicky Béchaud là qui fait encore le job. Et ça y est, c'est terminé à l'instant. L'arbitre argentine qui siffle la fin de cette rencontre, ce troisième match de poule. Victoire de l'équipe de France. 6-3 face au Panama. Les Bleus terminent première de ce groupe F et sont qualifiés pour les huitièmes de finale.
Et on est ensemble jusqu'à 15h dans l'intégral foot. On va débriefer dans un instant cette rencontre. Le 32-16 est ouvert à Direct Studio et hashtag RMC Live. Élise Bussaglia et Fleur Jaffrelot aussi pour débriefer cette rencontre et donc la qualification des Bleus pour les huitièmes de finale.
RMC Intégral Foot, Coupe du Monde féminine.
Arnaud Valadon.
14h10 sur RMC, programme particulier parce que c'est la Coupe du Monde féminine que l'on vit sur RMC, la Coupe du Monde de foot en Australie. Les Bleus sont en huitième de finale après la victoire 6-3 face au Panama. On débriefe ce match, vous retrouverez Estelle Midi les meilleurs moments. Demain, on est ensemble jusqu'à 15h, toujours avec Élise Bussaglia, ancienne internationale et notre consultante pour la Coupe du Monde, consultante RMC, Fleur Jaffrelot, journaliste et ancienne joueuse de D2, D1 et Anthony Iresh, notre monsieur football féminin à RMC. Dans une petite demi-heure, on sera avec un invité, le coach de Dijon, Sébastien Joseph, qui sera avec nous pour évoquer cette Coupe du Monde et la performance de l'équipe de France. Anthony, rappelle-nous le scénario de ce match. J'oublie pas, le 32-16 est ouvert, évidemment, pour vos réactions, hashtag RMC Live et appli Direct Studio. Anthony, rappelle-nous le scénario. J'ai envie de dire, puisqu'on vient d'entendre Vincent Moscato, rocambolesque de ce France-Panama.
C'est le mot, Arnaud, effectivement. Ouverture du score quasiment sur la première action de jeu de la part du Panama avec un coup franc exceptionnel des 30 mètres de la capitaine Cox. 1-0 pour le Panama. Derrière, belle réaction des Bleus qui vont égaliser par Lacrar à la 21e. 2-1 à la 28e par Kadidiatou Diani. 3-1, encore Diani, le doublé à la 37e. Dans les arrêts, dans le temps additionnel, la première période, Léa Le Garec sur un centre-tir, on va dire, et qui trouve la mire. 4-1 pour les Bleus, 5-1 à la 52e, triplé de Kadidiatou Diani. Et puis là, quelques petits points négatifs, puisque les Panamènes continuent de s'accrocher. Elles vont réduire l'écart au score par deux fois. 5-2 d'abord par Pinzon à la 83e, 5-3 ensuite par Cedeño dans le temps additionnel. Et finalement, score final 6-3 avec un ultime but de la Lyonnaise Vicky Béchaud.
Et donc les Bleus qualifiés pour les huitièmes de finale, ce sera mardi à 13h contre l'équipe qui sera deuxième du groupe H. Et ça, ce sera à déterminer demain. Pour l'instant, c'est la Colombie qui est en tête, qui a battu l'Allemagne en deuxième position. Donc il est probable et possible d'avoir un France-Allemagne en huitième de finale de cette Coupe du Monde mardi 8 août à 13h, et ce sera à vivre en direct et en intégralité sur RMC. Élise, est-ce que aujourd'hui on va finalement ne retenir que la victoire et la qualification, pas forcément le contenu, même si tout n'a pas été mauvais, mais cette deuxième mi-temps nous laisse un goût quand même très amer?
Oui, cette deuxième mi-temps nous laisse effectivement un goût amer. C'est pas ce qu'on espérait. Je pensais vraiment que la France allait beaucoup plus pouvoir dérouler, se faire plaisir aussi, prendre un peu des automatismes pour des joueuses qui jouent un peu moins souvent et moins souvent ensemble, et marquer des points pour certaines d'entre elles. Et là, ça a été quand même un petit peu laborieux sur cette deuxième mi-temps notamment.
On écoute Hervé Renard au micro de France 2, sa réaction il y a quelques instants.
Il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu en deuxième mi-temps, mais on va les occulter. On va retenir que la Jamaïque a fait match nul contre le Brésil et qu'elle élimine le Brésil. Voilà, comme quoi c'était un groupe difficile. Bon, ce soir c'était un peu plus facile, mais on aurait pu le rendre encore plus facile. Quand on a mis de l'efficacité, quand on a joué simple, ça a été, et quand on a commencé à faire un peu n'importe quoi, et ben on est tombé dans la difficulté. Il faut respecter le football. Félicitations pour le résultat et la première place.
Hervé Renard, Fleur, est-ce que tu partages l'analyse d'Hervé Renard? Par moment, je dis bien par moment, on n'a pas trop respecté le football, c'est-à-dire que on a peut-être été un peu suffisante dans cette équipe grandement remaniée. On a fait souffler des cadres.
Oui, on l'a vu en première mi-temps, c'était... Dès que l'équipe de France était juste, simple, tout était beaucoup plus... C'était mieux, il n'y avait pas photo. Et en deuxième période, oui, ils ont clairement ça a été clairement compliqué pour elle. On l'a vu, c'était un peu, on jouait un peu moins vite, les déplacements étaient pas trop faits, il y avait moins ce lien entre les milieux et les attaquantes. On l'a vu, c'est, j'accable personne, mais la faute sur le deuxième but du Panama d'Elisa pour le 5-2.
Un penalty, ouais.
Ouais, c'est ces petits détails-là qu'on aurait aimé ne pas voir aujourd'hui. Après, bon, voilà, on est première de notre poule, on est qualifié à la première position. On va affronter peut-être l'Allemagne ou la Colombie en huitième de finale. C'est chose faite, mais oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, on aurait aimé peut-être voir un visage un petit peu plus radieux.
Et être dans la lignée, parce que finalement, Élise, on tenait pas du tout le même discours à la mi-temps. On menait 4-1, on avait eu 20 minutes, on était mené au score, et ensuite, on a été juste, comme le dit Hervé Renard. Tu partages son analyse, et j'évoquais le mot de suffisance. Est-ce que tu es d'accord aussi avec ça, ou c'est trop fort?
J'aime pas trop ce terme de suffisance, parce que je pense vraiment pas que les joueuses qui rentrent en cours de match soient dans un excès de confiance ou justement suffisantes. Au contraire, je pense qu'elles veulent trop en faire pour marquer des points, et je pense que c'est ce qui leur a fait défaut à certaines, et ça se ressent forcément sur la qualité aussi collective de l'équipe de France sur cette deuxième mi-temps.
Vos réactions sur l'appli Direct Studio. Il y a Concorde qui dit encaisser 3 buts face à une équipe qui n'a jamais marqué. C'est vrai, en Coupe du Monde, le Panama. Que peut-on espérer pour le 8e? C'est vrai que ça interpelle un petit peu. Et on a Mamad qui a composé le 32-16. Bonjour Mamad.
Bonjour.
Tu nous appelles d'où, Mamad?
Moi, je vous appelle de Fresnes.
Et tu as vu le match, quel est ton avis? Et oui, on a bien compris. Enfin, en tout cas, on s'en doutait, Mamad. Quel est ton avis sur ce match?
J'ai vu les deux premiers matchs. Les trois matchs plutôt, parce que là, c'était le troisième. Et franchement, je crains qu'on sorte, si on affronte l'Allemagne en huitième, je crains qu'on sorte, parce que franchement, on a... Contre une équipe du Panama, je trouve que ça a été bon. On domine, c'est normal, c'est le Panama, mais on s'est fait peur. J'ai pas trouvé les joueuses très sereines. Après, Hervé Renard, il a bien fait de faire tourner un petit peu l'effectif. Hein. Et pour moi, franchement, il va falloir être costaud, mais très très costaud, solide derrière face aux Allemands de Pop. Parce que là, contre le Panama, je compte pas le premier but, parce que le premier but, il n'est pas... premier but, c'est un coup franc. Mais franchement, la faute grossière, une faute grossière dans la surface pour pas grand-chose, je trouve... La gestion du match, elle a été assez, assez compliquée, et j'ai vraiment peur des Allemandes.
Merci. Mamad, je suis tout à fait d'accord avec toi, Mamad. Le problème, c'est comment on peut tirer des enseignements de ce match, étant donné que la moitié de l'équipe va changer contre l'Allemagne. Donc c'est ça aussi qui est difficile d'analyser.
Après, lors du premier match, on avait l'équipe type, et on a peiné contre la Jamaïque.
Alors, partiellement, parce qu'il y a eu quand même des changements importants. Changement de charnière centrale et Kenza Dali. L'équipe type, elle est vraiment peut-être contre le Brésil, Mamad.
Tout à fait.
Elle est contre le Brésil. Elle est contre le Brésil. Mais attention, le Brésil, comme on peut le voir, est sorti. Mmh. Donc, ce n'était pas un gros Brésil. Et la France a eu l'habitude de battre le Brésil chez les féminines. Donc, franchement, faut qu'on aille vraiment avec des pincettes. J'aimerais bien voir l'équipe de France, bien sûr, mais gagner la Coupe du Monde haut la main. Mais ça va être très très difficile déjà dès les huitièmes.
Après, est-ce que tu vois pas l'Allemagne trop belle? Parce que on ne l'oublie pas. Déjà, ce n'est pas sûr parce que le groupe H joue demain, mais c'est probable. Pourquoi? Parce que l'Allemagne a perdu la finale du groupe contre la Colombie il y a quelques jours, et donc l'Allemagne se retrouve deuxième du groupe. Nous, la France, on a terminé première de ce groupe, et donc on joue le deuxième du groupe H, donc potentiellement l'Allemagne. Mais si l'Allemagne termine deuxième de son groupe, Mabad, c'est que elles sont peut-être pas si fortes que ça, les coéquipières de Pop.
Eh ben franchement, si l'Allemagne finit deuxième, on aurait dû finir nous deuxième de la poule.
On n'est pas obligé de calculer comme ça,
on peut pas calculer comme ça. On peut pas calculer comme ça. Mais les Allemandes, franchement, voilà, c'est solide. C'est solide, ça met de l'intensité tout le match. Et nous, on a des trous d'air. Franchement, je ne sais pas si vous avez vu, des fois, on a des
trous d'air. On a suivi tous les matchs comme toi, Mamad.
Voilà.
Oui, c'est ta raison, on n'est pas consistante. Hein,
voilà.
Sur 90 minutes.
Exactement. Donc, sur la longueur d'un match, on a des moments où on est
il y a des trous d'air.
Alors, et voilà. Donc, j'espère vraiment qu'Hervé Renard, il va trouver la recette pour ce match-là. Et je pense que ce match-là, si on passe l'Allemagne, voilà, vous pourrez m'appeler pour la finale.
Avec plaisir. Non, mais il y a deux choses, parce que effectivement, on se dirige vers un huitième de finale, soit la Colombie, soit l'Allemagne, avec quand même une tendance plus forte pour l'Allemagne. Mais toi, tu disais à l'instant, Mamad, peut-être terminer deuxième pour éviter les Allemandes. Moi, les Colombiennes, Élise. D'ailleurs, la dernière défaite en phase de poule des Françaises à la Coupe du Monde, c'était la Colombie. 2015, on remonte un peu, mais Anthony, le premier match d'Hervé Renard aussi et Élise, c'était la Colombie à Clermont-Ferrand, et c'était pas une partie de plaisir. Hein.
Ah non, c'était loin d'être une partie de plaisir.
L'équipe de France qui s'était fait secouer sur...
Ouais, bah, allez, vas-y, Mamad, rapidement.
Ouais, je voulais juste finir sur une chose, c'est que là, dans cette Coupe du Monde féminine, parce que souvent, on décrit le football féminin, et là, dans cette Coupe du Monde féminine, en fait, il n'y a pas une équipe qui ressort et qui s'est qualifié, mais vraiment
le Japon,
le Brésil, la Suède, l'Allemagne,
les Néerlandaises, moi je trouve dégagent aussi une belle force.
Oui, mais voilà, il y a des équipes qui n'ont pas le Brésil, l'Allemagne qui perd,
les États-Unis qui ont failli perdre,
voilà, les États-Unis qui ont failli. Donc c'est assez ouvert finalement.
Et on va parler plus globalement de la compétition aussi. On est ensemble jusqu'à 15h dans l'intégrale foot. Merci beaucoup, Mamad, pour ton coup de fil.
Merci à vous.
Et on te retrouve. Et si on bat les Allemands dans l'huitième de finale, on a pris le rendez-vous, hein.
Le 20 août.
On a tes coordonnées, Mamad, on te rappellera. Avec plaisir. Rappelez-moi. Merci.
Allez, ciao.
Oui, un mot sur les Colombiennes. Ouais. Parce que, c'est pas totalement une surprise, de les avoir, vu battre les Allemandes. C'est une nation très solide, Élise.
C'est une nation solide. C'est une nation, une équipe qui arrive à mettre beaucoup d'intensité dans ses matchs. Elles sont très vives, très très explosives, et elles mettent beaucoup d'agressivité aussi sur le porteur de balle. Je sais pas si t'as vu le match contre l'Allemagne, hein, Colombie-Allemagne, mais sur les côtés, les Allemandes, ouais, elles étaient jamais seules. Elles pouvaient pas faire des centres tranquillement, on va dire, comme le jeu allemand le demande, et pop à la réception. Là, sur les côtés, à chaque fois, il y avait deux voire trois Colombiennes qui harcelaient le porteur de balle. Voilà, c'est très très difficile de jouer contre la Colombie, et l'Allemagne en a fait les frais.
Et en plus, ce jeu que tu décris, c'est typiquement ce que les Françaises n'aiment pas.
Exactement. Et en plus de ça, la Colombie a cette qualité technique pour ressortir les ballons et pour être dangereuse offensivement. Après, l'avantage, c'est que la France les a joués il n'y a pas longtemps. Elles s'étaient fait bien bouger. Elles étaient menées, il me semble, 2-0 au score, pour ensuite gagner 5-2.
Ouais.
Mais elles avaient vécu justement un petit peu l'enfer colombien, on va dire, entre guillemets, hein, évidemment. Et c'est bien, à la limite, si la France rencontre la Colombie, d'avoir fait ce match amical avant. Après, si c'est l'Allemagne, voilà, sur les dernières confrontations, l'Allemagne, c'est pas un bon souvenir par rapport à l'Euro. La France a déjà battu l'Allemagne, mais c'est sûr que c'est très très compliqué contre les Allemandes, qui ont pour moi l'avantage aussi d'avoir un meilleur banc que l'équipe de France.
Fleur, tu es plus team méfiance Colombie, méfiance Allemagne, ou les deux, parce qu'évidemment ce sont deux belles équipes, mais les Colombiennes ont un petit côté épouvantail quand même, match piège sur beaucoup d'aspects.
Au vu du début de cette Coupe du Monde, clairement la Colombie, mais l'Allemagne restera toujours l'Allemagne. Et je pense que, comme l'a dit Élise, il y a une profondeur de banc telle qu'il faut vraiment s'en méfier.
14h22 sur RMC, c'est l'intégral foot en débrief. France-Panama, la victoire des Françaises qualifiées pour les huitièmes de finale. Victoire 6-3, les joueuses d'Hervé Renard sont premières de leur groupe. Elles joueront donc leur huitième de finale mardi 8 août à 13h, et ce sera sur RMC, soit contre la Colombie, soit contre l'Allemagne. Aujourd'hui, Élise, Anthony et Fleur, on a encore vu le 4-4-2. C'est vraiment la patte Hervé Renard. Qu'est-ce que vous en pensez de ce 4-4-2? On a quand même vu par séquence que dans le jeu, on avait eu beaucoup plus de fluidité. Oui, c'était le Panama en face, mais on l'a vu insister contre le Brésil, qui était le gros match temps fort de cette phase de poule. Élise, est-ce que tu sens les joueuses de plus en plus à l'aise ou pas avec, encore un bémol, je vais le mettre, cette composition remaniée, mais on n'avait pas notre milieu de terrain titulaire, il y avait juste Grace Gueyoron en défense centrale, pareil. Mais est-ce que tu penses que ce 4-4-2 commence à être de plus en plus assimilé ou pas?
Oui, c'est sûr qu'elle l'assimile. Après, est-ce que c'est la meilleure option? Hervé Renard juge que c'est le cas. Donc voilà, on verra si pour les huitièmes de finale, il continue dans ce schéma ou s'il y a un ajustement. En tout cas, il y a forcément des avantages et des inconvénients à chaque système de jeu. Pour le moment, ça nous permet aussi de mettre la pression sur les défenses adverses avec vraiment deux points de fixation dans l'axe du terrain. Donc voilà, ça c'est pas rassurant non plus. Hein, quand on a Diani Béchaud ou Diani Le Sommer qui sont sur le dos des défenseurs centrales, c'est pas rassurant pour une équipe adverse parce qu'on sait qu'à tout moment Diani peut prendre la profondeur, Eugénie peut se retrouver entre les lignes pour apporter cette qualité de points de fixation et puis sa qualité technique. Mais c'est sûr que voilà, au niveau du milieu de terrain, on est un petit peu moins fourni. Gueyoro et Toletti, ou Gueyoro et Le Garec là sur le match de Panama, se retrouvent un peu plus esselés, on va dire. Voilà, contre une équipe, si on joue l'Allemagne, est-ce que ce sera le meilleur dispositif? J'en suis pas sûr, mais pourquoi pas.
Et l'équipe de France qui a fait tourner donc des cadres, mais on a clairement, Anthony, compris le 11 titulaire d'Hervé Renard. C'est celui du Brésil.
C'est celui du Brésil, effectivement, avec le retour et la montée en puissance de Selma Bacha. Moi, je trouve que là, cette composition-là, c'est celle qui a l'air la plus efficace, la plus impactante, et puis la plus complète aussi, dans ce 4-4-2-là. Alors, je suis un peu de l'avis d'Elis. Est-ce que c'est le meilleur système pour ces Bleus? On verra par la suite s'il y a des ajustements. En tout cas, je trouve que face au Brésil, face au Panama, elles ont quand même aussi plus pris la largeur, qui était aussi une vraie interrogation. Il y a moins de failles dans l'entrejeu. On voit ça coulisse un peu mieux au milieu de terrain, que ça soit Sandy Toletti, Grace Guillaume et Kenza Dali. Ça marche bien toutes les trois quand elles sont alignées. Et puis, ce sont des joueuses, que ça soit Kenza Dali ou Selma Bacha, qui ont un gros volume de jeu, qui te permettent d'avoir, quand on n'a pas le ballon, un vrai rideau défensif. Elles peuvent vraiment filer un coup de main à Toletti et Gueyoro, et elles sont capables aussi de se projeter. Et même si on n'a pas une profondeur de banc monstrueuse, Vicky Béchaud aujourd'hui a marqué beaucoup de points. La jeune lyonnaise, elle est capable de jouer un petit peu partout sur le domaine dans le domaine offensif. Et puis après, Le Sommer sera là, quand elle est titulaire, et ça sera le cas en huitième de finale si elle est elle est apte, évidemment. C'est indéboulonnable. Khadija Toudiani retrouve de la confiance. Elle monte en puissance, elle a mis ce triplé qui va lui faire du bien. Il y a des éléments positifs, tout n'a pas été parfait, loin de là. Mais non, ce 4-4-2 est intéressant, je trouve.
Quelle note vous donnerez à la phase de poule de l'équipe de France? Le contrat est rempli, invaincu, première place du groupe. Mais, et d'ailleurs, c'est un petit peu les propos de Roma sur l'appli Direct Studio, qui se dit sceptique parce que sur les trois matchs, soit six mi-temps, il y a quand même quatre mi-temps pas très bonne, quelque part, les deux contre la Jamaïque, contre le Brésil. Il y a la première qui est très bonne. Il y a ce premier quart d'heure de la deuxième période où on encaisse un but raté, mais il y a la réaction derrière. Et aujourd'hui, la deuxième mi-temps est pas bonne, Élise.
Oui, c'est vrai que sur l'ensemble des trois matchs, on n'est pas totalement convaincu, on va dire. On part pas la fleur au fusil sur ce huitième de finale. Donc c'est bien aussi, hein, dans un sens, parce que ça permet à toute l'équipe et tout le staff d'être bien bien alerte et bien bien concentré sur la suite. Mais je pense qu'ils le sont de toute façon. Après, il y a vraiment la grosse mi-temps, première mi-temps contre le Brésil qu'il faut avoir en tête, qu'il faut avoir pour référence, et c'est ce que les joueuses doivent garder pour arriver en confiance sur ce huitième de finale.
Et quelle est ta note? On veut savoir quelle
est ta note. Sur de sur 20 en plus, Élise.
Il
n'y
a plus de notes maintenant. Hein, oui, c'est des vrai. Appréciations.
Qui est enseignante, on le rappelle, Élise.
C'est vrai.
Ouais. Eh ben, écoute, si on part sur le système scolaire, je vais dire en cours d'acquisition. Voilà. Non, mais
entre 12 et 13 sur 20, voilà, c'est ce que j'allais dire.
Exactement, ouais, entre 12 aussi. Et 13, parce qu'en plus, même si la Jamaïque passe en éliminant là le Brésil sur le match d'aujourd'hui, c'est pas non plus une équipe qui va être prétendante au titre. Le Panama, non, ça reste une équipe faible. C'est pas le groupe le plus compliqué non plus, hein, que la France ait eu. Donc voilà, 12-13, on va dire.
Et Fleur?
Je suis un peu de votre avis, j'aurais mis un peu plus de la moyenne. Voilà, on est autour du 11-12. Le Brésil a...
Ça fait une mention assez bien. Alors au baccalauréat, tel que je l'ai connu, parce que ça a peut-être encore changé, dans 12, c'est encore la mention assez bien.
J'ai l'impression de me vieillir quand je parle comme ça.
non, mais c'est vrai. Enfin, je rejoins tout à fait Élisée Fleur. C'est-à-dire que on a une équipe de France qui a montré des choses très intéressantes face au Brésil, mais on ne peut pas éluder ce qui s'est passé face à la Jamaïque. Et même si elles ont, je pense, tiré les leçons de tout ça, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de réunions informelles avant le match du Brésil. Et comme le disait Kadiatou Diagne hier, elle a ressenti des choses en équipe de France qu'elle n'avait jamais ressenties. Alors ça montre aussi quelque part qu'il y a une dynamique qui est lancée. Il y a cet avertissement à nouveau face au Panama, mais comme le disait Élise très justement, on n'a pas l'équipe titulaire. Les titulaires, on les verra en huitième. Et en fin de compte, c'est le huitième de finale qui montrera peut-être le vrai visage de l'équipe de France.
Tiens, avant d'accueillir Kels au 32-16, il y a Gabriel sur l'appli Direct Studio qui nous demande si on trouve que l'équipe de France joue en 4-4-2, car lui voit plutôt un 4-3-3 avec Béchot énormément dans le couloir. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même cet ajustement qui était la position de Kenza Dali, Élise. On l'a un peu vu avec Clara Matteo. Ce milieu droit, quelque part, à l'image, on en parlait ce matin avec Anthony, d'un Blaise Matuidi à la Coupe du Monde, ce milieu droit qui peut se remettre dans l'axe pour aller chercher une supériorité numérique. Il y a un petit côté hybride finalement dans ce système.
Oui, avec les nouveaux termes qui sont employés, ce côté hybride comme on dit, avec Dali, que ce soit Dali ou Matteo, hein, sont des joueuses qui peuvent évoluer dans un 4-3-3 justement au milieu de terrain. C'est ça qui est bien aussi dans le 4-4-2. On l'a pas dit tout à l'heure, mais ils peuvent vite être réajustables, hein, sur le 11 titulaire. On peut très vite avoir Kenza Dali qui bascule dans l'axe pour donner un coup de main à Gueyoro et Toletti, et Dali qui se décale à droite. Donc là aujourd'hui c'était Béchot. On part plus sur un 4-4-2 de base, on va dire, mais c'est vrai que selon les situations du match, on peut avoir la milieu droit à l'image d'un Blaise Matuidi à un moment donné avec l'équipe de France garçon, une Dali ou une Matteo qui peut retrouver un petit peu plus l'axe du terrain.
Et on en revient toujours au même point, l'animation, mais c'est vrai que l'animation défensive, on sait que le 4-4-2, ça permet d'avoir deux lignes, deux pointes qui harcèlent. Voilà, quand on a le ballon, c'est effectivement un petit peu différent. Il est 14h30 sur RMC, c'est l'intégral foot. Jusqu'à 15h, on débriefe la victoire des Bleus pour ce troisième et dernier match de poule, 6-3 contre le Panama, avec Anthony Reich, avec Élise Bussaglia et Fleur Jaffrelot. Et comme promis, on accueille Kels au 32-16. Bonjour Kels.
Bonjour.
Tu nous appelles d'où, Kels?
Bonjour. De Paris, Paris 15e.
Et bon, tu es à côté, tu n'es pas très loin des studios d'RMC. Bon, qu'est-ce que tu penses de ce premier parcours des Bleus, de cette phase de poule, conclu à la première place avec une victoire, mais un peu de manque de consistance de la part des joueuses d'Hervé Renard?
Ouais, je suis assez d'accord. C'est un peu l'image de pas mal d'équipes. Hein. Je pense qu'il n'y a aucune équipe qui arrive vraiment à être consistante sur toute une rencontre. Mais je pense qu'elle monte en puissance et, comme disait, au monsieur qui m'a appelé juste avant, là, moi, je suis plutôt content de recevoir l'Allemagne parce que je les vois pas aussi fortes qu'on le dit et il y a le sentiment de revanche. Et je trouve que la Colombie est vraiment une équipe qu'on, je pense que ça aurait été très compliqué de les jouer. Et donc, c'est ce que j'avais prévu avec des amis hier, là. Et tout se passe comme j'avais dit, quoi. Mais je trouve ça bien ce qu'elles font.
Et pour les huitièmes de finale, Allemagne ou Colombie? Sachant que la tendance, on le rappelle, est plutôt l'Allemagne, ce sera déterminé demain.
Les deux vont gagner demain et je pense que l'Allemagne va terminer deuxième.
Et
ouais, c'est ce que je pense.
Oui, c'est.
Et on va recevoir.
Je t'inquiète.
Non, pas du tout. C'est peut-être parce qu'on a changé de sélectionneur et que j'aime beaucoup Hervé Renard. Mais je pense vraiment que. Comme je disais, il y a un sentiment de revanche. Et nous avait battu dernier Euro, je crois. Et je pense que si on arrive à tenir l'attaquante, la Pop, ça va le faire. Franchement, je suis très très confiant même.
Et surtout qu'on trouve une assise défensive. On a vu que Renard Lacrar, c'était quand même.
C'est solide.
C'est solide, hein.
Mais d'ailleurs, j'ai une question. Vous pensez qu'elle va laisser Dalmeida ou elle va.
Maël Lacrar. Oui, Maël Lacrar va faire le pendant avec Wendy Renard, d'autant plus que elles ont quelques matchs en commun et ça s'est bien passé. Ça a été solide face au Brésil. Ça sera sauf grande surprise, mais ça sera la charnière de ce huitième de finale.
Voilà, cette ligne de quatre. Périsset, Lacrar, Renard, Karchaoui. Il y a peu de doute, même si d'ici 6 jours et ce 8e mardi, Élise, on ne sait pas ce qui peut se passer à l'entraînement, mais sauf événement imprévu et sauf imprévu, les assurances apportées par Maël Lacrar et Wendy Renard, plus Maël Lacrar, parce que Wendy, on peut mettre n'importe qui à côté, Wendy sera toujours là, Élise, mais Élise de Almeida n'a pas forcément marqué des points parce qu'elle concède aussi un pénalty aujourd'hui.
Oui, et puis c'est vrai que la CRAR fait un bon début de compétition, même si je l'avais trouvé un peu moins intéressante sur le couloir droit sur le premier match. Et depuis qu'elle a été réaxée, notamment aux côtés de Wendy sur le match contre le Brésil, c'est vrai qu'elle fait des bons matchs. Donc je pense que effectivement, ce sera la charnière Lacrar Renard, et ensuite sur les côtés Karchaoui et Périssé. Ouais.
Et qu'elles sont passe contre l'Allemagne.
Oui, si, c'est l'Allemagne. Je suis très confiant, on va passer. Franchement.
Et sachant que derrière, on sait déjà ce qui pourrait nous attendre si on gagne notre huitième de finale contre l'Allemagne ou contre la Colombie. Ce sera soit l'Australie ou le Danemark.
Vaut mieux prendre le Danemark. Mais bon, les Australiennes, plus la compétition va avancer, plus elles vont être difficiles à bouger. Petit point stat, Arnaud, en Coupe du Monde, nous n'avons jamais battu l'Allemagne. 2 matchs, 2 défaites. En poule, en 2011, défaite 4-2. Et ce magnifique quart de finale en 2015 au Canada, à Montréal, défaite au pénalty. Et même lors des Euros, nous n'avons jamais battu non plus l'Allemagne. Donc il est temps de rectifier cela.
Quand on te parle de France-Allemagne, Élise, est-ce qu'on a encore un peu mal à la tête?
Oui, c'est sûr que c'est un mauvais souvenir par rapport à la Coupe du Monde 2015. Mais après, on a déjà battu l'Allemagne aussi, mais sur des grosses compétitions, l'Allemagne reste favori.
Et peut-être demain, donc l'Allemagne joue à midi contre la Corée du Sud, l'équipe la plus faible de leur groupe, et la Colombie joue le Maroc, qui peut-être encore se qualifier le Maroc, hein, mais bon, faut que les Allemands...
Ça va être très dur.
Ça va être très dur. Nous revient dans un instant. On est ensemble jusqu'à 15h. C'est l'Intégral Foot qui débriefe ce Panama-France. Merci beaucoup, Kels, au 32-16. Hein, vos réactions, appli direct studio et hashtag RMC Live. On continue de débriefer. On sera dans un instant avec Sébastien Joseph, entraîneur de Dijon, club de D1. On est toujours avec Élise Bussaglia, notre consultante ancienne internationale, Fleur Geoffroy, le journaliste, et Anthony Reich, notre commentateur des Bleus. 14h35 sur RMC. On est encore ensemble jusqu'à 15h pour analyser et débriefer cette Coupe du Monde féminine.
RMC Intégral Foot, Coupe du Monde féminine.
Arnaud Valadon.
14h39 sur RMC, c'est l'Intégral Foot. On a suivi la victoire de la France face au Panama. Troisième et dernier match de poule des Bleus à la Coupe du Monde féminine en Australie. Les Bleus qualifiés. Victoire 6-3 face au Panama. Les Bleus qualifiés, le 8e qui aura lieu mardi prochain à 13h, à suivre en direct et en intégralité sur RMC. On est toujours avec Élise Bussaglia, notre consultante RMC pour la Coupe du Monde. Deuxième joueuse la plus capée des Bleus. Fleur Geoffroy, aussi journaliste et ancienne joueuse de D1, D2 avec nous, et Anthony Reich. Nous accueillons notre invité, c'est le coach de Dijon, l'équipe et la section féminine. Sébastien Joseph est avec nous. Bonjour Sébastien.
Bonjour à tous.
Salut Sébastien. Salut.
Merci d'être avec nous. Bah, Sébastien, qu'est-ce que vous avez pensé du match France-Panama et aussi de notre premier tour, tout simplement? Parce que est-ce que ce France-Panama n'est pas aussi un petit peu le reflet de notre premier tour, avec parfois du très bien et parfois du moins bien?
Je dirais le motif de satisfaction numéro un, c'est quand même de finir premier du groupe. Et c'est là qu'on attendait l'équipe de France. Même s'il y avait une grosse opposition contre le Brésil, on savait très bien que l'équipe de France était favorite dans ce groupe-là. Et puis, je dirais un peu partagé sur les prestations où, effectivement, comme vous disiez à l'instant, ça a alterné du moins bien et de bonnes choses. Et notamment sur les aspects défensifs, où je trouve que cette équipe reste encore un peu perméable par moment.
Élise, qu'est-ce que tu penses d'Hervé Renard sur ce début de la compétition? Tu as peut-être vu les images de cette causerie avant France-Brésil. Qu'est-ce que tu en as pensé? Tu as trouvé que c'était très fort, que c'était une causerie, une bonne causerie, sans être peut-être mémorable, et au-delà évidemment des mots du sélectionneur, ses décisions sur le terrain? Élise.
Oui, je le trouve fidèle à lui-même par rapport à ce qu'on connaît de lui. C'est vraiment un meneur d'hommes. Alors là, en l'occurrence, meneur de femmes. il emmène vraiment le groupe avec lui. Et quand il est au bord du terrain, notamment contre le Brésil, qu'on le sent un peu comme s'il était habité, c'est vrai que, enfin, moi, je sais qu'en tant que joueuse, ça m'aurait forcément porté, ça m'aurait forcément soutenu. Donc, je pense que c'est bien et c'est un gagnant. Donc, est-ce que c'est ce qui manquait jusqu'à là à l'équipe de France féminine? Je sais pas. Je sais pas si on peut dire ça, parce qu'on peut pas dire que les coachs précédents, femmes ou hommes, n'aimaient pas gagner. C'est pas ça. Mais c'est vrai que lui, on le sent, c'est vraiment en lui, si vous voulez. Et du coup, c'est vrai que ça rejaillit forcément sur l'équipe, sur le groupe, sur l'ambiance qu'il peut y avoir aussi. Donc voilà, après par rapport à ses choix, ça reste cohérent. Après oui, on peut débattre un petit peu sur le 4-4-2 ou le 4-3-3, mais pour l'instant c'est cohérent. Après on va avoir vraiment un gros test en huitième de finale, parce que ce soit la Colombie ou l'Allemagne, ça va être un gros huitième de finale. Quand on voit le match, l'intensité du match Allemagne-Colombie, c'était peut-être pour eux leur 16e de finale, on va dire, mais en tout cas le France-Colombie ou le France-Allemagne aura vraiment beaucoup d'intensité, beaucoup de saveur et beaucoup de
piquant. Ouais, voilà, ouais.
Comment?
De piquant, enfin voilà.
Ouais, il y aura beaucoup d'excitation autour de ce match-là, donc et ça lancera la deuxième phase entre, on va dire, de la compétition, parce qu'il y a, voilà, la compétition, une Coupe du Monde, c'est deux phases différentes. Il y a la phase de poule qui est vraiment particulière, et puis ensuite c'est des matchs à élimination directe, donc on rentre dans une nouvelle compétition.
Tu es en train de me dire que après avoir écouté la causerie d'Hervé Renard, t'avais une petite envie de remettre les crampons? Tellement ouais, il a motivé.
J'aurais bien aimé remettre les crampons. J'aurais bien aimé jouer sous les ordres d'Hervé Renard pour rencontrer le personnage. Et puis oui, moi c'est le genre de coach que j'aime bien, qui rentre un peu dedans tout en respectant et tout en tirant le meilleur des filles, parce que le but c'est pas non plus de rentrer dedans pour excusez-moi l'expression, gueuler pour gueuler. C'est pas le but, c'est pas ça qu'il faut. C'est réussir à mettre la joueuse en confiance et lui transmettre des ondes positives, et j'ai l'impression que c'est la force d'Hervé Renard, donc ça c'est très bien pour l'équipe de France féminine.
Sébastien Joseph en direct avec nous, coach de Dijon en D1 féminine. Ça vous marque aussi les discours et peut-être même l'unité autour d'Hervé Renard, parce que on le voit sur le terrain, il y a du bon, du moins bon. On manque un petit peu de consistance sur 90 minutes, mais on voit aussi que tout le monde fait corps autour du sélectionneur. Ça vous marque aussi un petit peu ça, Sébastien?
Ça marque, parce qu'on sent que ces dernières années, c'est certainement la principale chose qui manquait à l'équipe de France, cette unité entre la direction, voilà, le staff et les joueuses, et même la fédération. Donc aujourd'hui, forcément, c'est quelque chose qu'on attendait d'Hervé Renard. On sait que c'est un compétiteur avant tout. Il vient d'ailleurs sur l'équipe de France parce que justement, il y a des grosses échéances en termes de compétition, que ce soit là la Coupe du Monde, les JO l'année prochaine, et puis l'Euro ensuite. Donc il va pouvoir enchaîner ce qu'il aime, c'est-à-dire des grandes compétitions, et puis il va pouvoir aussi prendre la mesure du foot féminin et du niveau de compétition, parce qu'il n'a pas eu une mission facile. Quand on débarque 3-4 mois avant une grande compétition, c'est déjà pas évident, mais en plus quand on a forcément un peu de mal à situer le niveau de la compétition de manière générale, parce que même s'il avait observé beaucoup de matchs, il avait pas de vécu dans le foot féminin, et donc forcément c'est des choses qu'on a du mal à mesurer au départ, et donc c'est en tout cas une de ses grandes forces pour l'instant, c'est qu'il sait mettre cette unité dans le groupe autour d'un projet compétitif. Maintenant, comme le disait Élise à l'instant, les choses très sérieuses vont commencer. On a quand même eu un groupe qui était relativement facile quand même à passer, et là maintenant on va avoir forcément une grosse opposition. On voit que le foot féminin à tous les niveaux, au niveau international, se resserre. On a de plus en plus de surprises, des résultats qui remettent en cause la hiérarchie. On l'a vu avec les États-Unis, qu'on faille passer à la trappe. On l'a vu avec d'autres nations. On a vu que la Colombie était capable de rivaliser et largement avec l'Allemagne. On sait que l'Allemagne est une nation très forte du foot féminin. Donc forcément, il va y avoir un huitième de finale qui va être extrêmement compliqué. Et là, je pense qu'on va pouvoir un petit peu plus évaluer et talonner vraiment le groupe et le projet de jeu de cette équipe de France.
Et que Sébastien, comment tu vois justement le huitième de finale? Tu sens les Bleus assez solides, assez consistantes pour passer l'écueil allemand ou colombien?
Franchement, je l'espère. Après, on sait que l'équipe de France, c'est une équipe qui aime bien avoir le ballon. On a beaucoup de joueuses qui évoluent dans des équipes comme le PSG ou Lyon, donc forcément dans des grandes équipes qui ont l'habitude d'avoir le monopole du ballon. Là, il va falloir avoir, je dirais, une gestion du match qui soit un peu plus partagée, accepter d'être un petit peu dominé par moment, rentrer aussi dans les duels, parce que là, de ce qui m'a un petit peu déçu sur le match du Panama, c'est que je trouve qu'on a manqué de présence dans les duels, notamment défensifs. On prend encore 3 buts sur des coups de pied arrêtés, sur beaucoup de duels perdus. Donc là, il va falloir répondre dans ce domaine-là au niveau de l'impact athlétique qui sera mis en place. Et voilà, effectivement, cette équipe de France va devoir aussi, lorsqu'elle n'a pas le ballon, lorsqu'elle va devoir défendre, faire preuve, je dirais, d'une solidité qu'on n'a peut-être pas forcément vu sur les derniers matchs.
Sébastien Joseph, coach de Dijon en D1 féminine. Un petit mot quand même de Dijon, un club que Élise connaît un petit peu pour y être passé, mais vous n'êtes pas croisé. Vous avez repris l'entraînement avant-hier, Sébastien.
Oui, c'est ça. On a repris le 31. Forcément, on avait un petit peu décalé notre préparation par rapport justement à la Coupe du Monde et à la reprise du championnat qui se fera un peu plus tardivement. Mais voilà, pour l'instant, on est très satisfait du groupe. On attend encore au moins une arrivée pour renforcer cet effectif sur le secteur offensif. Mais pour l'instant, tout se passe très très bien. Donc voilà, les joueuses étaient contentes de reprendre le chemin des terrains aussi. Et puis c'est vrai que dans cette toute nouvelle infrastructure toute neuve qu'on a à Dijon, on a aujourd'hui un outil de travail extraordinaire. Je pense que Élise aurait vraiment aimé connaître, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir évoluer dans des conditions comme ça.
C'est-à-dire qu'il y a effectivement mis en place par le club un nouveau centre d'entraînement. C'est plus le petit stade des Pousseaux que tu avais dû connaître, Élise, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Moi, j'avais connu les Pousseaux. C'est vrai que c'était pas l'idéal.
Bargallo et compagnie.
Tribune.
Et petite tribune. Là, vous avez un centre tout neuf à Saint-Apollinaire, juste à côté de Dijon. Et surtout, parce que ça, c'est effectivement important, beaucoup de joueurs de clubs encore de D1 utilisent du synthétique. Certains, là, c'est que de l'herbe, hein, pour les joueuses d'entraînement et...
Le complexe, effectivement, vraiment immense avec 6 terrains. Il y a 3 terrains pelousés, 3 terrains synthétiques. Et nous, cette année, on va jouer donc tous nos matchs au stade Gaston Gérard, donc qui est le grand stade de Dijon. L'ensemble des rencontres seront disputées dans le stade principal de Dijon, qui est effectivement un stade pelousé. Donc, on s'entraîne aujourd'hui uniquement, exclusivement sur pelouse. Voilà, ce qui nous permet vraiment d'être mis dans les meilleures conditions pour aborder cette nouvelle saison.
T'as pas envie de revenir quand t'entends ça, Élise, à Dijon?
Non, en plus, t'es pas très loin.
Merci beaucoup, Sébastien Joseph, coach de Dijon en D1 féminine, avec la reprise le 16 septembre contre Montpellier pour les Dijonnaises avec ce déplacement. Merci beaucoup, Sébastien.
Merci à vous, bonne journée, et puis Élise sera toujours la bienvenue, elle le sait.
Merci, c'est gentil.
Et voilà, l'invitation est lancée. Élise, tu restes un petit peu avec nous, on est encore ensemble pendant 10 minutes avec Anthony Reich et Fleur Jaffrolo. Les Bleus qualifiés pour le 8e de finale de cette Coupe du Monde, ce sera mardi à 13h, soit contre l'Allemagne, soit contre la Colombie. Bon, on va profiter un petit peu de ces 8 minutes pour parler plus globalement de cette Coupe du Monde. On a vu pas mal de surprises, on a failli assister à des grosses surprises, je pense aux États-Unis qui ont failli prendre la porte à un poteau près, hein. On n'était pas loin quand même. L'Allemagne qui a perdu contre la Colombie en phase de poule et donc pourrait se retrouver sur le chemin des Françaises. L'Afrique du Sud qualifiée en 8e. Les Jamaïcaines qualifiées en 8e aux dépens du Brésil. Ça, c'était la poule de nos Françaises. Élise, qu'est-ce que tu penses de cette Coupe du Monde ? Plus incertaine que jamais, où il y a peut-être moins d'ogres. C'est vrai que les Américaines, sur les précédentes compétitions, étaient quand même l'équipe à abattre, hein.
Oui, c'est un petit peu la grosse surprise de cette compétition. C'est le niveau affiché par les Américaines. Et oui, elles se sont fait très, très peur. Elles ont frôlé même l'élimination qui aurait été historique. Voilà, vraiment l'occasion manquée. En tout cas, déviée par le poteau des Portugaises a fait très peur à tous les Américains, je pense. Après, il y a quand même des constantes, hein. Il y a des équipes dont on parle pas beaucoup, comme le Japon, la Suède, qui ont fait le travail comme d'habitude et qui sont toujours présentes. Les Pays-Bas, qui réalisent aussi un très bon début de Coupe du Monde. Donc voilà, il y a quand même des équipes qui sont toujours présentes. Après, il y a des surprises et il y a notamment certains pays africains qui ont émergé. Voilà, je pense notamment au Nigeria, qu'on n'attendait pas forcément, et surtout avec une poule avec le Canada, c'est un petit peu la surprise aussi. Le Canada, quand même, qui est coutumier du fait de sortir en tout cas des poules et d'être même présent dans les derniers tableaux. Donc c'est vrai que c'est une surprise. Et c'est bien. Ça veut dire que le foot féminin évolue aussi. Et ça veut dire qu'il y a plus d'ouverture pour des équipes qu'on n'attendait pas forcément.
Et que le foot féminin se densifie, Fleur, c'est vrai, c'est ce qui nous marque. Hein. On voit que c'est aussi, il y a quelques gros écarts. Il y a 6-3 aujourd'hui, mais il y a aussi des matchs très serrés. Quand on voit la main Jamaïque nous tenir net 0-0, certes, on fait pas un bon match, mais là, elles font 0-0 contre le Brésil, ces équipes africaines qui parlent. Le Nigeria qui a battu quand même l'Australie aussi. Enfin, on voit, et c'est peut-être quelque part aussi l'Afrique qui est le continent qui a vraiment progressé hein, entre ces deux Coupes du Monde.
Oui, il y a de plus en plus d'homogénéité, mais moi, ce que je retiens de ces phases de poule, c'est surtout le niveau athlétique des joueuses, où on voyait c'était souvent ce qui faisait le gros écart entre les nations qui étaient un peu plus solides et celles qu'on disait les petits poussés de la compétition. Là, je trouve que athlétiquement parlant, quasiment toutes les équipes sont prêtes. On a souvent pointé du doigt le niveau des gardiennes. Je pense que le niveau des gardiennes est plutôt propre aussi. Je pense que c'est surtout le football féminin qui tend à s'améliorer. Et c'est tout ce qu'on demande et c'est une réalité. On le voit avec ces équipes africaines, mais on le voit aussi avec peut-être les Pays-Bas qui ont été un peu moins bien en Coupe du Monde, mais qui reviennent, des grosses nations qui confirment toujours, voilà, le Japon, la Suède, on en parle moins, mais elles sont toujours là, l'Allemagne qui est toujours là. Certes, les États-Unis a frôlé la catastrophe, mais c'est toujours ça, mais c'est surtout, oui, voilà, moi, c'est vraiment ce que je ressors de ces phases de poule, c'est cette densité athlétique qui a vraiment, je vois la différence, il y a rien que 4 ans, je vois une énorme avancée, en fait.
Et ouais. Tu le perçois aussi?
Oui, mais on voit que le niveau athlétique est très fort. C'est aussi pour ça que la Jamaïque pose peut-être autant de problèmes à une équipe comme la France ou une équipe comme le Brésil, parce que ce sont aussi leurs qualités. Donc elles jouent là-dessus.
Non, et puis surtout, moi je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus une seule nation quasiment qui chute complètement à l'heure de jeu. Ce qui arrivait très souvent dans les matchs internationaux de football féminin, que ça soit au niveau même européen ou international, on l'a vu lors de la Coupe du Monde 2019, ça n'arrive quasiment plus. Et avant cette Coupe du Monde, beaucoup d'observateurs le disaient. La nation qui sera championne du monde sera évidemment une nation qui jouera bien au football, mais surtout qui sera dans le combat. Et on sera certainement sur la Coupe du Monde la plus dense physiquement de l'histoire.
Ça veut dire que avant c'était vraiment le jeu léché.
Bah, ça prenait plus le pas sur. Je sais pas ce que t'en penses, Elisa, mais je trouve que ça prenait plus le pas avant sur l'impact physique sur 90 minutes. Le Japon a été champion du monde en 2011. Les Japonaises ne sont pas réputées pour être, en tout cas à cette époque, elles n'étaient pas réputées pour être les joueuses les plus denses physiquement. Donc le beau jeu te permettait de gagner aussi. Là, honnêtement, ça va être un vrai combat à chaque match à partir des 8e de finale, faudra s'imposer physiquement. Et les Bleus, on a l'impression qu'elles prennent un peu conscience de cela. Hier, Kadiatou Diagne le disait, elles se sont parlé sur ce sujet-là. L'impact physique qu'il faudra mettre dans chaque duel, dans chaque match, sera déterminant. Et il ne faudra pas laisser un petit quart d'heure au début de match laisser passer, parce que sinon, ça pourrait être la sanction.
Oui, c'est un peu leur slogan aussi à cette équipe de France. Je ne sais pas si vous le voyez, elles se le disent tout le temps, la grinta. C'est parce que c'est ce qui est ressorti de ce premier match contre la Jamaïque. Et elles se sont dit, c'est clairement ce qui nous manque. Les qualités techniques, on les a. Mais cette grinta, bon, les qualités athlétiques, elles les ont. C'est des joueuses qui évoluent dans les meilleurs clubs d'Europe pour la plupart. Mais cette grinta, c'est ce qui leur a manqué. Et c'est clairement le mot d'ordre depuis 2 matchs.
La grinta, ça va être la clé, Élise.
Oui, mais c'est sûr que, de toute façon, dans tous les sports, l'aspect psychologique, l'envie de gagner son premier duel, de passer devant l'adversaire, de s'imposer, c'est dans tous les sports, c'est important et on le voit de plus en plus dans le foot féminin. Et c'est sûr que si on a cette grinta, cette envie d'aller devant, c'est un peu un don de soi aussi, hein. Ça peut être sur un but. Voilà, quand on dit il manque un petit orteil, ben des fois il faut se jeter, il faut s'arracher sur chaque ballon. Ça peut être pour une occasion de but, ça peut être défensivement et ça doit être le cas sur chaque centimètre carré du terrain parce que c'est ça aussi qui fera la différence. Après, une fois qu'on a le ballon, ben il faut avoir les qualités techniques pour mettre son jeu en place, pour se créer des occasions. Il faut que tactiquement aussi on soit à la hauteur parce que ben, quand il faut dédoubler, il faut y aller, il faut ressentir aussi les choses sur le terrain. C'est aussi ça fait aussi partie du jeu, mais c'est sûr que cet aspect grinta en vouloir plus que son adversaire et vraiment être des compétitrices du début à la fin, c'est sûr qu'il faut absolument l'avoir pour bouger toutes les équipes pour aller à la finale et remporter ce titre.
Et il va falloir être en forme, être au top physiquement. D'ailleurs, on en parlait beaucoup, la constitution du staff, Anthony, autour d'Hervé Renard. Il y a deux préparateurs physiques.
Thomas Pavillon effectivement est le on va dire le préparateur athlétique en chef et il est secondé par Sabrina Viguier qui est une ancienne internationale que tu connais bien Élise d'ailleurs et c'est vrai que il fonctionne enfin c'est très dense voilà c'est à l'image de ce staff de toute façon très élargi en termes de moyens humains qui est inédit puisqu'ils sont vraiment nombreux Hervé Renard a deux adjoints le premier adjoint c'est Laurent Bonadei qui était avec lui en Arabie Saoudite Eric Blake a complété aussi ce staff pour la préparation, l'animation des séances. Il y a un spécialiste de la data, David Ducci. Donc globalement, tout est constitué, tout est structuré pour améliorer l'équipe de France sur beaucoup de plans. Et l'aspect data montre aussi qu'ils veulent aussi beaucoup travailler sur l'aspect athlétique.
Merci beaucoup Anthony Reich. Merci beaucoup Fleur Jaffrelot, journaliste, ancienne joueuse de D1 D2. Merci aussi Élise. Et la bonne nouvelle, on n'en doutait pas, mais on se retrouve pour les huitièmes. Ce sera mardi à 13h contre l'équipe qui terminera deuxième du groupe H. On sera présent, vous serez tous là parce qu'RMC vous permet de vivre en direct et en intégralité tous les matchs. Et en plus là, ce sera le coup près. C'est soit on gagne, soit on rentre à la maison, Élise. Donc il y aura beaucoup de piment, comme tu le disais, beaucoup de sel. Merci beaucoup Élise.
Merci à vous, à mardi.
Très bonne fin d'après-midi, on sera là mardi et puis tout à l'heure on continuera de parler et on reviendra sur ce match des Bleus, victoire 6-3, qualification pour les huitièmes dans l'Intégral Sport avec Flora Moussi à partir de 18h. Là, ce sont les meilleurs moments du Super Moscato Show qui arrive. Vincent Moscato, Adrien Aigouin et Pierre Dorian, très bon après-midi sur RMC.
RMC, Intégral Foot, Coupe du Monde Féminine.